Il faisait sombre la dernière fois que j'étais descendu dans le terrier. Alors bien sûr, il faisait sombre maintenant qu'il n'était que 2 minutes plus tard. Beaucoup de choses avaient changé durant ces 2 minutes, cependant. Je m'en rendais compte même dans l'obscurité. À un moment ou à un autre, au cours des 48 dernières années, l'usine avait brûlé. Tout ce qui restait, c'était quelques pans de murs noircis, une cheminée écroulée, qui me rappela inévitablement celle que j'avais vue sur le site des aciéries Kitchener à Derry, et plusieurs tas de gravats. Il n'y avait pas trace de Your Main Snuggery, L.L. Bean Express, ni aucune autre boutique à la mode. Il n'y avait ici qu'une usine en ruine abandonnée sur les berges de la rivière Androscoggin. Rien d'autre. Le soir de juin où j'étais parti pour ma mission de 5 ans pour sauver Kennedy, la température était agréablement tiède. Là, elle était étouffante. J'ai enlevé le manteau en mouton retourné que j'avais acheté à Auburn et l'ai abandonné dans le réduit nauséabond. Quand j'ai refermé la porte, j'ai vu l'écriteau qui était accroché. « Attention, toilette hors service, canalisation d'égout cassée. » De beaux jeunes présidents mouraient et de beaux jeunes présidents vivaient. De belles jeunes femmes vivaient et puis elles mouraient. Mais la canalisation d'égout cassée sous la cour de l'ancienne filature de la Warrombo semblait être éternelle. La chaîne était toujours là, elle aussi. Je me suis dirigé vers elle en longeant le mur en vieux parpaing sale du bâtiment qui avait remplacé le séchoir. Lorsque je me suis baissé pour passer sous la chaîne et rejoindre le devant du bâtiment, j'ai vu que c'était une petite alimentation de quartier désaffecté appelée « Quick Flash ». Les vitres étaient brisées et toutes les étagères avaient été démontées. L'endroit n'était qu'une coquille vide dans laquelle la lumière d'une sortie de secours à la batterie presque morte bourdonnait comme une mouche contre un volet. Il y avait un graffiti peint à la bombe sur les restes du revêtement de sol et juste assez de lumière pour lire « Dégage d'ici, sale bâtard de paquis ». J'ai traversé le béton cassé de la cour. Le parking où les ouvriers de l'usine avaient coutume de se garer avait disparu. Rien n'avait été construit sur l'emplacement. C'était juste un terrain vague rectangulaire, rempli de bouteilles brisées, des morceaux de puzzle d'un vieux revêtement d'asphalte et de touffes anémiques de mauvaises herbes. Des préservatifs usagés pendouillaient ça et là comme des vieux serpentins abandonnés. J'ai levé les yeux vers les étoiles et n'en ai vu aucune. Le ciel était plombé de nuages bas, juste assez minces pour laisser filtrer un vague clair de lune. Le feu clignotant au carrefour de Main Street et de la route 196, autrefois connu sous le nom d'ancienne route de Lewiston, avait été remplacé par un feu de signalisation, mais celui-ci était éteint. Ça ne faisait rien, il n'y avait aucune circulation dans les deux sens. La Kennebec Fruit Company avait disparu. Il n'y avait plus qu'un carré de mur en ruine à sa place. En face, où se trouvait le Front Vert en 1958 et où aurait dû se trouver une banque en 2011, il y avait une bâtisse qui s'appelait Coopérative Alimentaire de la province du Maine. Sauf que ses fenêtres étaient brisées, elles aussi, et tous les produits qu'elle avait pu abriter avaient depuis longtemps disparu. L'endroit était aussi dévasté que le Quick Flash. À mi-chemin du carrefour des airs, un immense bruit aérien, comme une déchirure liquide, m'a glacé sur place. La seule chose que je pouvais imaginer capable de produire un tel son était une sorte d'avion de glace qui aurait fondu instantanément en franchissant le mur du son. Le sol sous mes pieds a brièvement tremblé. Une alarme de voiture a bredouillé, puis s'est tue. Des chiens ont aboyé. Puis un par un se sont calmés. « Tremblement de terre à la Saint-Glace », j'ai pensé. « 7 000 morts !» Des phares ont jailli sur la route 196 et j'ai rejoint le trottoir d'en face à la hâte. Le véhicule était un petit bus carré marqué « Tour de ville » dans sa fenêtre de destination allumée. Ça a teinté dans ma tête comme une harmonique, mais je ne sais pas pourquoi. Une harmonique perdue, sans doute. Sur le toit du petit bus, plusieurs gadgets tournaient. On aurait dit des ventilateurs. Des éoliennes, peut-être. Était-ce possible ? Je n'avais entendu aucun grondement de moteur à essence, rien qu'un faible bourdonnement électrique. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce que le large croissant de son unique feu arrière ait disparu de ma vue. D'accord. Alors comme ça, les moteurs à essence étaient en voie de suppression dans cette version du futur. Cette « corde », pour employer le terme de Zach Lang. C'était une bonne chose, pas vrai ? Peut-être. Mais l'air avait une texture lourde, comme morte, tandis que je l'aspirais dans mes poumons. Et il laissait comme un arrière-goût qui me rappelait l'odeur du transformateur de mon petit train électrique Lionel, quand, gamin, je le poussais trop. « C'est le moment de l'éteindre et de le laisser se reposer un peu », disait mon père. Il y avait quelques commerces dans Main Street qui ressemblaient à des affaires tournant à moitié. Mais pour le reste, c'était le foutoir complet. Le trottoir était fissuré et jonché de détritus. J'ai aperçu une demi-douzaine de voitures en stationnement et toutes sans exception étaient soit des hybrides essence électrique, soit équipées de ces engins rotatifs sur le toit. L'une d'elles était une Honda Zephyr, une autre une Takuro Spirit, une autre encore une Ford Breeze. Elles paraissaient anciennes et deux au moins avaient été vandalisées. Toutes portaient des autocollants roses sur le pare-brise, avec des lettres noires assez grandes pour que je puisse les lire même dans l'obscurité. « Province du Maine, catégorie A, détient carnet de rationnement. » Une bande de jeunes remontait le trottoir d'en face en déconnant, en riant et en parlant. « Hey !» Je les ai appelés. « La bibliothèque est toujours ouverte ?» Ils ont regardé de mon côté. J'ai aperçu les clignotements de lucioles de leurs cigarettes, sauf que l'odeur qui a dérivé vers moi était presque à coup sûr celle du shit.
« Casse-toi, mec !»
m'a rétorqué l'un d'eux. Un autre s'est retourné, a baissé son froc et m'a montré son cul.
« Si tu trouves un seul bouquin là-bas, tu peux le garder. Il est à toi. »
Il y a eu un éclat de rire général et ils ont continué leur chemin en baissant le ton et en jetant des regards en arrière. Ça m'était égal qu'on me montre son cul. C'était pas la première fois. Mais j'aimais pas ses regards. Et j'aimais encore moins ses échanges à voix basse. Il pouvait y avoir de la conspiration là-dessous. J.K. Epping n'y croyait pas vraiment, mais George Amberson, si. George en avait vu de dur. Et ce fut George qui se pencha, ramassa deux fragments de béton gros comme le poing, et les fourra dans ses poches, juste au cas où. Jake le trouva idiot, mais le laissa faire. Une rue plus haut, le quartier commerçant, si on peut dire, s'interrompait brusquement. J'ai aperçu une femme âgée qui se hâtait en jetant des coups d'œil nerveux au garçon qui la précédait légèrement de l'autre côté de Main Street. Elle portait un foulard et ce qui ressemblait à un respirateur, le genre d'appareil qu'utilisent les gens qui souffrent d'emphysème avancé ou de BPCO.
« Madame, savez-vous si la bibliothèque... Laissez-moi tranquille !»
Ses yeux terrifiés étaient dilatés. La lune parut brièvement dans une déchirure entre les nuages et je vis que son visage était couvert de plaies. Celle qu'elle avait sous l'œil droit semblait avoir rongé sa joue jusqu'à l'os.
« J'ai un papier qui m'autorise à être dehors, avec le tampon de la ville, alors laissez-moi tranquille. Je vais voir ma sœur. Ces garçons sont bien assez méchants comme ça, et ils vont pas tarder à se déchaîner. Si vous me touchez, je fais sonner mon biseur, et un agent de police va arriver. »«
Madame, je veux juste savoir si la bibliothèque est toujours... »«
Elle est fermée depuis des années, et tous les livres ont disparu. Ils y organisent des rassemblements de la haine maintenant. » « Laissez-moi, je vous dis, ou je sonne pour appeler un agent de police !»
Elle s'est sauvée en regardant toutes les deux secondes par-dessus son épaule pour vérifier que je ne la poursuivais pas. Je l'ai laissée prendre assez de distance pour la rassurer, puis j'ai continué dans Main Street. Mon genou se remettait un peu de ses efforts pour monter les 5 étages du TSBD, mais je boitais toujours, et je boiterai encore un certain temps. Dans certaines maisons, les lumières brûlaient derrière des rideaux tirés et j'étais sûr que ce n'était pas de la lumière électrique produite par Central Main Power. Ça, c'était des lanternes Coleman ou des lampes à pétrole. La plupart des maisons étaient obscures. Certaines étaient des épaves carbonisées. Sur l'une était dessinée une croix gammée et on avait bombé les mots « rat juif » sur une autre. Ces garçons sont bien assez méchants comme ça et ils vont pas tarder à se déchaîner. Et avait-elle vraiment dit « rassemblement de la haine » ? Devant l'une des rares maisons en bon état, c'était un château comparé à la plupart, j'ai vu une longue barre pour attacher les chevaux, comme dans les westerns. Et des chevaux y avaient vraiment été attachés. Quand le ciel s'est éclairé dans un autre de ces spasmes diffus, j'ai aperçu des tas de crottins, dont certains étaient encore frais. L'allée était fermée par un portail. La lune s'était de nouveau cachée, si bien que je ne pouvais pas lire l'écriteau fixé aux tiges de fer, mais je n'avais pas besoin de le lire pour savoir qu'il disait « Entrée interdite ». Soudain, d'un peu plus haut, m'est parvenue cette exclamation.
« Con !»
C'était pas une voix jeune, pas celle d'un des sauvageons, et elle provenait de mon côté de la rue. Le gars avait l'air énervé. Il avait aussi l'air de se parler à lui-même. Je me suis dirigé vers le bruit.
« Fouteur de merde !»
cria la voix exaspérée.
« Enculé !»
Il était peut-être à une rue de là. Avant que j'y sois, m'est parvenu un choc métallique sonore et la voix masculine a crié
« Barrez-vous ! Sale petit morveux ! Raclure ! Barrez-vous avant que je sorte mon revolver !»
Un rire moqueur a accueilli cette sortie. C'étaient les sauvageons fumeurs de haches. Et la voix qui a renchéri était certainement celle de celui qui m'avait montré son cul.
« Le seul revolver que t'as, il est dans ton froc. Et je parie qu'il a le canon mou. »
Encore des rires, suivis par un sifflement métallique aigu.
« Enfoiré ! Vous m'avez cassé un rayon !»
Quand l'homme a de nouveau crié, sa voix était empreinte de frayeur contenue.
« Non, non ! Restez de votre côté, putain !»
Les nuages se sont déchirés. La lune a risqué un œil. À sa lueur incertaine, j'ai aperçu un vieil homme en fauteuil roulant. Il avait à moitié traversé l'une des rues coupant Main. Goddard, si son nom n'avait pas changé. L'une de ses roues s'était coincée dans un nid de poule et son fauteuil penchait dangereusement vers la gauche. Les garçons étaient en train de traverser. Celui qui m'avait dit de dégager tenait un lance-pierre à la main, orné d'un caillou de belle taille. Voilà qui expliquait le choc et le sifflement.
« T'aurais pas des fa fusées, papy ? À propos, si t'en avais aussi des neufs ou alors des boîtes de conserve ? Non ! Si vous avez pas la foutue correction de m'aider à sortir de ce trou, au moins allez-vous-en et laissez-moi tranquille !»
Mais les jeunes étaient là pour se déchaîner et ils n'allaient sûrement pas l'aider. Ils allaient le voler, lui prendre n'importe quel petit truc qu'il pouvait posséder, peut-être le savater, lui renverser son fauteuil à tous les coups. Jake et George ont coïncidé et tous les deux ont vu rouge. Toute l'attention des sauvageons était rivée sur le vieux Zig en fauteuil roulant et ils m'ont pas vu couper vers eux en diagonale. Exactement comme j'avais coupé en diagonale à travers le cinquième étage du TSBD. Mon bras gauche n'était pas encore bon à grand-chose. Mais le droit allait impec, musclé par mes 3 mois de kiné, d'abord au Parkland Hospital, puis à Eden Fellows. Et j'avais encore un peu de cette précision qui avait fait de moi un joueur de 3e base en équipe universitaire. J'ai balancé mon premier morceau de béton d'une distance de 9 mètres, et chopé baise mon cul en plein torse. Il a poussé un cri de douleur et de surprise. Tous les petits mecs, ils étaient 5, se sont tournés vers moi. J'ai alors vu leur visage, aussi défiguré que celui de la femme apeurée. Le pire, c'était celui du mec au lance-pierre, jeune maître Cassos. Là où aurait dû se trouver son nez, il n'y avait plus qu'un trou. J'ai transféré mon deuxième morceau de béton de ma main gauche dans la droite, et j'ai visé le plus grand des cinq qui portait un énorme pantalon large, la ceinture remontée presque jusqu'au sternum. Il a levé un bras pour parer le coup. Le béton l'a frappé, expédiant dans les airs le joint qu'il tenait. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, puis a fait demi-tour et pris ses jambes à son cou. Baise-mon-cul l'a suivi. Ça en laissait plus que trois.
« Fais-le renvoir, fils !»
a glapi le vieux en fauteuil roulant.
« Ils l'ont bien cherché par le sang du Christ !»
Ça, j'en étais sûr. Mais j'étais en infériorité numérique et j'avais épuisé mes munitions. Lorsqu'on a affaire à des adolescents, la seule échappatoire possible dans une telle situation, c'est de ne trahir aucune peur. Seulement une authentique indignation d'adulte. De continuer à avancer. Et c'est ce que j'ai fait. De la main droite, j'ai saisi le jeune maître Cassos par le devant de son t-shirt en lambeaux et je lui ai arraché son lance-pierre de la gauche. Il m'a fixé, les yeux écarquillés, sans opposer de résistance. « Espèce de lâche !» je lui ai dit en approchant mon visage tout près du sien. Et tant pis pour le nez qui manquait. Le gosse sentait la sueur, la fumée de shit et la vieille crasse. « Il faut que vous ayez atteint quel degré de lâcheté pour vous en prendre un vieil homme en fauteuil roulant. »«
Qui t'aide à... »«
Charlie, je t'en foutrais de Chaplin. J'étais parti en France voir les dames comment elles dansent. Maintenant... « Foutez le camp d'ici !»«
Rends-moi mon... »
Je savais ce qu'il voulait, et je lui en ai foutu un coup en plein milieu du front. Une de ses plaies s'est mise à couler, et ça a dû lui faire un mal de chien parce que ses yeux se sont remplis de larmes. Ça m'a dégoûté et rempli de pitié, mais je me suis efforcé de ne rien montrer.
« T'auras rien, poule mouillée !» Sauf la chance de te tirer avant que j'arrache tes couilles inutiles de ton scrotum malade et que je te les fourre dans le trou où devrait être ton nez. Une seule chance. Prends-la.
Puis j'ai repris mon souffle et je lui ai hurlé à la gueule dans un jet furieux de postillons et de bruit.
Tire-toi !
Je les ai regardés se tirer, avec un sentiment de honte et d'exultation mêlée en part à peu près égale. L'ancien Jake avait été champion pour maîtriser le chahut dans les salles d'études les vendredis soirs d'avant les vacances. Mais c'était à peu près la limite de ses compétences. Mais le nouveau Jake était fait de George. Et George en avait vu de toutes les couleurs. Derrière moi a retenti une grosse quinte de toux. Ça m'a rappelé Al Templeton. Quand elle s'est calmée, le vieux m'a dit
« Mon ami j'aurais pissé sans sourciller 5 ans de calculs rénaux, rien que pour avoir le plaisir de voir ces petites crapules prendre leurs jambes à leur cou comme ça. Je sais pas qui vous êtes, mais il me reste un peu de Glenfiddich dans mon cellier. Du bon. Et si vous voulez bien me sortir de ce foutu trou dans la chaussée et me pousser jusque chez moi, je le partagerai avec vous. »
La lune s'était de nouveau embusquée. Mais comme elle ressortait au milieu des nuages en lambeaux, j'ai aperçu son visage. Il portait une longue barbe blanche et une canule lui remontait dans le nez, mais même après 5 ans, je n'ai eu aucun mal à reconnaître l'homme qui m'avait fourré dans ce pétrin. « Salut Harry, » je lui ai dit.